Bienvenue dans l'émission Loin des clichés, un podcast qui vous présente les histoires de vie des personnes accompagnées par l'association Le Mile. Dans chaque épisode, nous vous invitons à découvrir les galères, les défis, mais aussi les revanches sur la vie de parcours atypiques. L'association Le Mile a pour but de préserver et d'améliorer la santé des personnes présentant des conduites addictives, des maladies chroniques et d'accompagner aussi leur entourage.
Bonjour, aujourd'hui nous rencontrons Jérémy qui bénéficie d'un suivi sur l'unité mobile du centre de soins en ambulatoire de l'association Le Mail. L'unité mobile, c'est un véhicule aménagé en deux bureaux permettant la réalisation d'entretiens individuels effectués par une psychologue et un éducateur spécialisé. Le camion se déplace en milieu rural dans tout le département de la Somme. Ce dispositif vise à garantir un accès aux soins pour un public concerné par les addictions, mais éloigné des autres dispositifs de soins dus à l'éloignement géographique. Avec courage, Jérémy a accepté de nous faire part de son parcours en lien avec son rôle de père. Bonjour Jérémy, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous parler de toi et de ton parcours ?
Oui, bien sûr, bonjour. Alors, je m'appelle Jérémy, j'ai 40 ans et je suis boulanger de métier. J'ai deux enfants et je suis un grand passionné de musique. Ça a toujours été pour moi un moyen de m'évader et de m'exprimer. Bon, la musique, c'est avant tout un loisir, mais ça occupe quand même une place très importante dans ma vie, car elle m'a permis de garder un certain équilibre, et même dans les périodes difficiles.
Et est-ce que tu peux nous parler de tes premières consommations et de ta rencontre avec les produits ? Comment, en fait, cette première expérience a-t-elle évolué vers d'autres consommations et comment cela a-t-il affecté ta vie personnelle et familiale à l'époque ?
Alors moi, j'ai commencé à fumer du cannabis à l'âge de 14 ans. J'étais au collège. C'était un peu une mode avec les potes. On en prenait comme ça pour tester et je me suis retrouvé dans un cercle. Puis en grandissant, j'ai cherché à tester d'autres substances. J'ai ensuite commencé les drogues dures en soirée avec des amis. C'était festif à la base. Je prenais des extas ou du speed quand on partait en boîte. On allait souvent en Belgique parce que essentiellement pour la musique. Mais par rapport au fait surtout que les forces de l'ordre étaient un petit peu plus tolérantes vis-à-vis des produits, on avait moins de risques de se faire arrêter ou de se faire embarquer. Ça a été un impact, ça a été une source de conflit avec mes parents, bien sûr, mais surtout avec mon père. On ne se parlait pas beaucoup, mais il avait vite compris que je prenais des produits. En plus, moi, je n'étais pas vraiment du genre à me cacher. Je ne consommais pas devant eux, bien sûr, mais je rentrais parfois dans des états seconds. Tout ça, ça a quand même créé des gros conflits avec mon père. Un jour, il m'a demandé... Il m'a dit que la maison, c'était pas un hôtel, que si j'étais pas content, fallait que je m'en aille, que je prenne mes affaires et que je m'en aille. Et moi, un peu bête, à 17 ans, je l'ai pris au mot et je suis parti.
Donc, tu quittes la maison familiale à 17 ans. Quel rôle cette décision a-t-elle joué dans ton parcours ? Est-ce que cette liberté, entre guillemets, a influencé ta consommation de drogue ?
Ouais, je suis parti de chez moi, j'avais 17 ans. À ce moment-là, je croyais que j'allais devenir adulte et très libre. Mais en réalité, c'était un peu une fausse liberté, ça m'a mis un peu dans une spirale. J'étais mal dans ma tête et au lieu de prendre plus de responsabilités, je me suis retrouvé dans un environnement où la consommation de drogue était omniprésente. Je me suis retrouvé à dormir chez des amis, parfois sans repères, sans... J'ai expérimenté encore plus, quoi. C'est un peu là que j'ai commencé à me perdre dans tout ça. J'avais très peu de limites. Durant cette période, je me suis aussi dit qu'il fallait que je teste un petit peu tout. Donc j'ai testé pas mal de drogues et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre de l'héroïne et de la cocaïne.
Et par exemple, à ce moment-là de ta vie, t'étais tout seul, il n'y avait personne pour t'aider, toi et te...
Non, je m'étais éloigné de mes proches, justement, suite au dernier conflit qu'on avait. Mmh. Je parlais encore à ma mère et à mes sœurs, mais c'est vrai que je ne les voyais plus, donc...
Et du coup, tu parles d'une période où tu as consommé seul au quotidien. À quel moment as-tu pris conscience que tu allais trop loin ?
À un moment donné, je sortais beaucoup moins. J'avais moins de soirées en boîte, mais les envies de consommer restaient quand même vachement présentes. J'ai commencé à consommer tout seul au quotidien. C'était devenu une routine. J'ai commencé un petit peu par le sniff, la cocaïne, l'héroïne. J'ai croisé vite la route de quelqu'un qui se faisait des injections. Et il m'a montré très vite comment faire et c'est comme ça que j'ai appris à m'injecter. Ça a duré pendant une dizaine d'années, cette histoire. Durant cette période, j'ai failli partir trois fois. J'ai failli faire trois overdoses. Ces expériences qui m'ont vraiment fait peur. Le premier réflexe pour moi, ça a été de me dire que j'avais frôlé la mort. Et ça m'a fait prendre du recul malgré tout. Ça m'a calmé seulement qu'un temps. Mais la tentation a vite repris le dessus. Le problème dans ma consommation, c'est que je me mets vraiment pas de limites. Moi, j'aime pousser jusqu'aux limites de ce que mon corps il accepte. c'est pas vraiment moi qui dis stop, c'est plutôt mon corps qui réagit. Et j'ai des amis qui me l'ont déjà fait souvent remarquer que malgré que je suis pas grand et que je suis pas gros, j'encaisse plutôt pas mal. Je leur ai déjà fait même souvent peur. Mais j'avoue que je sais pas vraiment comment arrêter.
Et vu que tu as fait 3 overdoses, est-ce qu'à chaque fois tu te disais je vais arrêter après ouais, cette, parce ouais. que ça t'a fait peur.
Ouais, ça m'a fait vraiment peur. Et j'arrêtais même pendant, je dirais, quelques semaines, 3-4 semaines. Mais après, l'envie de reconsommer, elle revenait. Je me disais que je ferais plus attention. Mais malgré tout, je poussais les limites à chaque fois. Et c'est ça qui m'a fait refaire d'autres overdoses.
La naissance de tes enfants a été un tournant dans ta vie. Comment cela a-t-il modifié ta perception de ta consommation?
Quand j'ai eu mes enfants, pour moi, ça a été un vrai déclic. Moi, mes enfants, c'est la plus belle chose qui me s'est arrivée dans ma vie. Donc, d'un côté, je voulais être un bon père. Je voulais être présent pour eux. Mais d'un autre côté, je sais que je continue à m'auto-détruire. À partir de là, j'ai commencé à voir les choses différemment. J'ai compris que je pouvais pas continuer comme ça si je voulais vraiment être présent pour eux. Ça m'a donné un nouvel objectif de sortir de cette spirale pour être un meilleur père et un meilleur modèle pour eux.
Et est-ce que, par exemple, tes enfants sont au courant de ton parcours ?
Pas dans les détails, mais oui, ils savent que je suis un peu enfermé dans une spirale de drogue. Mm. Aujourd'hui, ils sont un petit peu grands, donc je leur en ai parlé, ils m'ont déjà demandé. Sans rentrer dans les détails, mais ils savent que j'ai un souci avec ça. Ouais.
D'accord. Et ils l'ont pris comment ?
Mon fils, il a une douzaine d'années, il est encore un petit peu jeune pour vraiment comprendre, mais il a écouté mes explications, il n'a pas vraiment eu d'avis. Après, ma fille, elle est un petit peu plus grande, elle a 18 ans. Elle était plus sur le regard des autres, c'est ça qui lui faisait plus peur pour elle. Que les gens ils me voyaient pas comme un toxico comme, ou des trucs comme ça. Et, enfin, je sais qu'il y a des gens qui me voyaient comme ça, mais je voulais pas que ça se répercute sur sa vie à elle. Non, c'est un petit peu ça qui m'a donné aussi l'envie de changer.
Tu as décidé d'entamer un parcours de soins. Quel a été le déclic pour faire ce choix? Et comment, en fait, ça s'est déroulé, tout ce processus-là?
Le déclic, il a vraiment été lié à mes enfants. C'est eux qui m'ont fait ouvrir les yeux. À mes enfants et aussi à leur mère, on se parlait beaucoup, mais... Malgré que moi, j'ai pas beaucoup d'amour propre envers moi, ça me dérange pas de me détruire. Seulement, j'ai commencé à me rendre compte que je faisais du mal aussi autour de moi, à mes proches, ce que j'avais pas du tout conscience jusque-là. C'est surtout ça qui m'a fait, ça m'a fait beaucoup de mal de me rendre compte que je leur faisais plus de mal à eux que je me faisais de mal à moi. Et personnellement, moi, je m'en fiche du regard des gens, mais quand ça touche à ma famille, à mes proches, c'est pas la même chose, quoi. J'ai réalisé qu'il fallait que je change, même si j'ai toujours travaillé au niveau milieu professionnel et que je me suis toujours occupé de mes enfants, de ma famille. Ça a quand même changé ma façon d'être. Je sais que j'étais dans un état second à chaque fois et ça a fini par malheureusement briser mon couple avec la mère de mes enfants. Mais ça m'a fait ouvrir les yeux aussi.
Et du coup, comment tu as eu cette première rencontre avec l'association Le Mail ?
Je sais plus. C'est suite à mon médecin. C'est mon médecin qui m'en a parlé. Mm-hmm. J'ai pris rendez-vous avec un médecin de l'association du Mail pour entamer un parcours de soins. Je savais que je pouvais pas arrêter tout seul du jour au lendemain, donc j'ai demandé de l'aide et entamé une démarche de soins. J'avais besoin d'aide pour arrêter le manque physique déjà de l'héroïne. C'est un processus quand même assez difficile, mais une fois que j'ai eu cette prise de conscience, j'ai arrêté du jour au lendemain les injections de cocaïne et d'héroïne. Je continue à fumer de la cocaïne, mais j'ai arrêté tout ce qui était injection comme ça du jour au lendemain.
D'accord. Et aujourd'hui, tu parles de ta dépendance à la kétamine. Pourquoi est-ce que cette drogue-là, elle reste très difficile à quitter? Et qu'est-ce que tu recherches encore dans cette consommation?
Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends de la kétamine, mais je dirais que c'est pas vraiment une dépendance. J'ai pas de dépendance physique. C'est vraiment psychologique. C'est celle qui reste encore un peu dans ma vie, même si c'est pas tous les jours. Ce que je recherche, c'est surtout un moyen de me déconnecter, de voir les choses différemment. Moi, me permet de m'évader, d'avoir des sensations uniques, un peu comme un rêve éveillé. Mais je suis conscient que c'est une forme de suite et c'est sur ça que je me bats encore. Je sais que c'est pas quelque chose de sain, mais c'est assez difficile à lâcher.
Et j'ai une petite question. Qu'est-ce que c'est la différence entre une dépendance physique et une autre dépendance, celle dont tu parlais?
Par exemple, la dépendance physique, c'est-à-dire que c'est un petit peu la dépendance de l'héroïne. Quand on n'en a pas, on se sent mal. On a des courbatures, on a des sueurs froides, on se sent vraiment malade, on se sent vraiment pas bien dans sa peau. Alors que la dépendance psychologique, c'est juste l'envie d'aller chercher quelque chose. Mais si on n'a pas d'argent et qu'au final, on n'a rien pour aller chercher, la dépendance, elle finit par passer. C'est psychologique, quoi.
D'accord, je comprends mieux. Merci.
Il n'y a pas de mal-être, je veux dire, si on n'en a pas.
Oui, ok. Justement, aujourd'hui, dans quel état d'esprit es-tu en tant que père et est-ce que tu aimerais faire passer un message à tes enfants ou même à toute personne qui pourrait traverser une expérience similaire à la tienne ?
Alors oui, moi aujourd'hui, je suis à un tournant de ma vie, autant sentimentalement que professionnellement et dans ma vie personnelle. Le fait d'avoir perdu mon couple et le fait que mes enfants y grandissent, ils soient à l'âge où ils peuvent potentiellement rencontrer le monde de la drogue, ça me donne une motivation supplémentaire et ça me pousse à pas consommer. Je vais être présent pour eux, je vais être sobre, je vais être clair dans mes échanges avec eux. Quand t'as consommé, tu déconnectes vite. Même si on me parle de choses importantes, tu déconnectes vite de ce qu'on est en train de te parler. Je trouve essentiel de pouvoir parler librement avec mes enfants. S'ils ont des questions, je vais pouvoir être disponible pour en parler et les épauler, peu importe la situation. Et à ceux qui traversent une expérience similaire, je dirais qu'il faut jamais perdre espoir. Le chemin, il est long, c'est sûr, mais il est possible de s'en sortir, surtout si on veut vraiment changer.
Tu évoques aussi l'importance de la père aidance. Pourquoi est-ce important de partager son expérience avec d'autres personnes touchées par l'addiction ?
Bah, je pense que partager son histoire, ça permet déjà de ne pas se sentir seul. L'addiction, ça a tendance à nous isoler et ça crée un cercle vicieux. Quand tu partages, tu te rends compte que tu n'es pas tout seul dans tes problèmes et que tu peux aider quelqu'un d'autre à comprendre qu'il y a une possibilité de changement. La père aidance, c'est essentiel, je trouve, parce que ça permet de ne pas rester dans l'isolement et ça permet de pouvoir se soutenir aussi mutuellement.
Et c'est ce que toi, tu as ressenti, ça t'a fait évoluer, ça t'a...
Ça m'a permis déjà de vider mon sac et de parler de tout ce que je ne pouvais pas parler à mes proches. Je pouvais en parler librement à quelqu'un et ça, c'est vrai que ça aide beaucoup quand même. Rien que de vider son sac et de parler de ce qu'on a sur le cœur, quoi.
Avoir une oreille attentive et aussi au courant, quoi, finalement.
Ouais, puis ils peuvent aussi nous apporter une vraie aide, parce que bah, c'est leur métier, hein, et je pense qu'ils ont déjà eu d'autres expériences du genre. Donc, ils ont souvent les bonnes réponses à nos questions, c'est vrai.
Et si tu avais un message à transmettre aux personnes qui luttent contre l'addiction, ou même aussi à ceux qui en sont proches, quel serait-il ?
Je dirais que le plus important, c'est de croire en soi et de ne pas avoir peur de demander de l'aide. L'addiction, c'est un combat de chaque instant, mais si tu es prêt à te battre, tu peux y arriver. À ceux qui sont proches d'une personne en difficulté, je dirais surtout qu'il faut être là pour eux, il faut les soutenir sans les juger. L'amour et le soutien, ça peut faire grandement la différence.
Merci beaucoup, Jérémy, pour ce témoignage sincère et fort. Ce que tu partages aujourd'hui pourra sûrement toucher beaucoup de gens et les aider à avancer. Pour terminer, j'ai vu que tu avais amené ta guitare. Qu'est-ce que tu vas nous jouer ? Raconte-nous un petit peu.
Je vais vous jouer un petit morceau à moi, je suis en train d'écrire quelques musiques et vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez.
Super, on écoute ça.
Je vois ton ombre sur le mur. Comme un écho resté trop pur, tu parles sans dire un mot, tes yeux fuient, c'est bien plus beau. Je retiens ce qu'il reste de nous, des souvenirs posés à genoux. Chaque nuit réécrit l'histoire, mais le jour efface ma mémoire. On marche ensemble sans se voir, deux fantômes dans le même miroir. Nos silences crient plus fort que nous. On s'efface à force de rester debout. Dis-moi pourquoi on joue encore à s'aimer quand il n'y a plus d'aurore. Dis-moi pourquoi on joue encore à s'aimer quand il n'y a plus d'aurore. Les promesses sont mortes de froid sur des lèvres qu'on n'ouvre pas. Tu joues sans rêve, moi sans sommeil. On s'éteint à force de soleil. Je voudrais hurler mais je t'étouffe, comme si parler brisait le bout de ce fil qu'on a tissé sur un vide qu'on ose traverser. On marche ensemble sans se voir, deux fantômes dans le même miroir. Nos silences crient plus fort que nous. On s'efface à force de rester debout. Dis-moi pourquoi on joue encore à s'aimer quand il n'y a plus.
pas. Si ce soir on oubliait nos pas, peut-être qu'on retrouverait un peu de nous qu'on a jeté. On marche ensemble sans se voir, deux fantômes dans le même miroir. Nos silences crient plus fort que nous, on s'efface à force de rester debout. Dis-moi pourquoi on joue encore à s'aimer quand il n'y a plus d'aurore. Dis-moi pourquoi on joue encore à s'aimer quand il n'y a plus d'aurore. Pourquoi on joue encore à s'aimer quand il n'y a plus d'aurore.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos services, nos actions et nos projets, rendez-vous sur notre site internet asoc-lemail.net ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux sous le nom de Association Le Mail. Vous y trouverez plus de détails sur nos services et accompagnements. À très bientôt pour un nouvel épisode de Loin des clichés.
Cette émission est réalisée en partenariat avec Radio Campus Amiens.